Deuil et mélancolie.
Pardon ?
Deuil et mélancolie. Ouais, c'est un des textes, mais j'y pense comme ça, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas. Bon, on va y aller. Alors, séance du 1er mars 2022, donc lecture de l'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Alors, nous allons traiter ce soir de la question de la mauvaise foi, qui fait l'objet du deuxième chapitre de la première partie de l'être et le néant. Si vous regardez votre texte, ces pages, j'ai pas mis les pages. Vous avez donc première partie, le problème du néant. Il y a deux parties dans la première partie. La deuxième, c'est la mauvaise foi. Et ça commence page 95 et ça va jusqu'à la page 126 dans la collection Tel, hein, Gallimard. Bon, alors avant d'aborder sa lecture, je voudrais d'abord faire un bilan rapide de ce que nous avons vu lors de la séance précédente, puis montrer brièvement ce qu'on peut dire de la mauvaise foi en restant à une simple observation psychologique, sans entrer encore dans une analyse philosophique. Et pourquoi je fais ça ? Pourquoi je ferai ça ? Précisément pour vous montrer pourquoi l'analyse philosophique est nécessaire. Voilà. Et c'est ce que fait Sartre. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de la séance précédente ? Je serai ici un peu schématique, hein, je vais à l'essentiel. Que l'homme est, comme le dit Sartre, cet être par lequel le néant vient au monde, en tant qu'il est une conscience. Puisque sa conscience fait qu'il n'est pas justement une chose, c'est-à-dire un être en soi, un être qui demeure ce qu'il est. Les choses ont une essence, elles ont une identité. Eh bien, la conscience n'est pas un être, elle n'est pas une chose. Et on a vu que c'était un néant d'être. Un néant d'être. Et parce qu'elle est néant d'être, elle fait apparaître l'être et elle le met en question. Bon. C'est ce néant qui est au cœur de l'être humain, qui constitue sa liberté. Puisque, au fond, qu'est-ce qui constitue la liberté de l'homme, hein ? C'est qu'il ne coïncide pas avec son être. Il est toujours en question dans son être. C'est là-dessus qu'on avait beaucoup insisté. La liberté, pour Sartre, c'est quelque chose de radical. Hein ? C'est la réalité même, c'est la réalité humaine elle-même, c'est l'étoffe de notre être. Bon. Alors, ce néant qui est au cœur de l'être humain, qui constitue sa liberté, lui permet à la fois de se distancier des choses pour s'interroger sur leur être, et aussi, bien sûr, de s'arracher perpétuellement à son être propre. Et on avait utilisé le terme que Sartre utilise pour montrer ce mouvement de négation par lequel, au fond, la conscience met constamment en question les choses et met en question aussi son être. Eh bien, c'est le terme de néantisation. Hein. C'est la néantisation. Et au fond, la néantisation, c'est la liberté. C'est pas autre chose. Et la liberté, c'est ce mouvement de la conscience grâce auquel elle s'arrache perpétuellement à l'être. Bon. Alors, ici, je rappelle une définition que donne Sartre au début de l'être et le néant concernant l'homme. L'homme est cet être pour lequel il est dans son être perpétuellement question de son être. Donc il n'a pas d'être comme les choses, hein, puisqu'il nie perpétuellement son être, il n'a pas d'être comme les choses, il a à être. Il a à être. C'est-à-dire qu'il se projette perpétuellement vers un avenir, il se projette perpétuellement vers des possibles. Ça, c'était le deuxième point. Et puis, troisième point, c'est dans l'angoisse que se révèle notre liberté, comme le montre l'exemple du vertige que nous avons vu la dernière fois et puis que j'ai réutilisé dans l'émission des rendez-vous de Philopop. Oui, c'est dans l'angoisse qu'on prend conscience de sa liberté. La liberté est angoissante. Elle est angoissante dès lors que nous découvrons que nous sommes seuls à décider de notre être, que nous ne pouvons pas nous reposer sur un être, justement, que nous ne pouvons nous reposer sur rien, que rien ne détermine nos choix. Rien, par exemple, ne m'assure que je ferai attention de ne pas tomber dans le précipice, si je suis à côté d'un précipice. Je ne peux même pas me rassurer, je ne peux même pas me dire « Ah ben, j'ai un instinct vital qui fera que j'éviterai de tomber dans le précipice. » Tout est possible. Tout est possible. Il y a ici, on découvre ici, et c'est ça qui est angoissant, une liberté sans attache, qui fait qu'on peut décider de tout. Voilà ce que nous avons vu la dernière fois. Or, justement, c'est parce que la liberté se révèle angoissante, en main de circonstances, que nous sommes tentés de la fuir. Et cette fuite, c'est précisément la mauvaise foi. Et alors, pour Sartre, la mauvaise foi, finalement, c'est notre condition ordinaire. Car nous passons notre temps à fuir notre liberté, d'une certaine façon. Et, sauf qu'il y a des situations, parfois terrifiantes, enfin, très angoissantes, qui nous mettent en face d'elle. Non, elle n'a rien de plaisant, la liberté, mais rien du tout. On voudrait pouvoir s'en débarrasser. Hein ? Voilà, ça, c'est une idée très forte chez Sartre. La condition humaine n'est pas drôle du tout. C'est pas drôle d'être libre. Hein ? Alors, donc, la mauvaise foi est cette attitude qui consiste à se mentir à soi-même. Alors, ici, voyons d'abord ce que nous pouvons en dire en restant à une description psychologique, sans encore entrer dans la lecture de l'être et le néant. Et nous allons voir que cet examen de la mauvaise foi se heurte à trois difficultés insolubles. Et bien, c'est bien justement parce que nous nous heurtons à ces difficultés que il faut aller plus loin et qu'il va falloir réfléchir philosophiquement sur la mauvaise foi. C'est-à-dire, la réflexion philosophique nous aidera à comprendre pourquoi cette conduite qu'on appelle la mauvaise foi, est possible. Et sur quoi repose cette possibilité? Qu'est-ce qui la rend possible, la mauvaise foi? Ce n'est pas une observation psychologique qui nous le permettra, puisque au contraire, cette observation va se heurter ici à un problème insoluble. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ordinairement et qu'est-ce qu'on dit ordinairement de la mauvaise foi? D'abord, l'homme de mauvaise foi, ce n'est jamais moi, hein. C'est l'autre. C'est toujours l'autre. Et à quoi voit-on que l'autre est de mauvaise foi? Est-ce que son comportement sonne faux? Est-ce qu'il trahit une certaine duplicité? Ainsi est de mauvaise foi celui qui tente de nous convaincre par des raisons auxquelles lui-même, au fond, ne croit pas. Ou bien c'est cet autre homme qui, par obstination, refuse de reconnaître devant nous le bien fondé de nos raisons, de nos arguments. Voilà ce qu'on entend en général par la mauvaise foi, mais c'est toujours l'autre qui est de mauvaise foi, bien sûr. Alors, voilà ce qu'on se limite le plus souvent à dire. Sur la mauvaise foi. C'est le sens commun, si vous voulez. Mais cette vision de la mauvaise foi est tout de même assez superficielle. Et elle la distingue mal du mensonge, en fait. Si vous regardez bien, la mauvaise foi, c'est une forme de mensonge, comme nous l'avons caractérisé. Et nous pensons ordinairement qu'en poussant un peu, en insistant, on arrivera à faire admettre à celui qui est de mauvaise foi sa mauvaise foi. Hein? Bon, allez, reconnais, bon, puis il finira par l'admettre. Donc, la mauvaise foi apparaît plutôt comme une sorte de mensonge qui est surtout dirigé vers autrui. Bon. Or, comme nous le verrons, pour Sartre, la mauvaise foi, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est pas une forme de mensonge. C'est une conduite beaucoup plus profonde. Et même aussi, bien souvent, quand nous parlons même dans le sens commun de la mauvaise foi, nous sentons bien qu'elle n'est pas tout à fait du même ordre que le mensonge. Quand nous y réfléchissons bien, nous nous rendons bien compte que des personnes qui sont de mauvaise foi croient vraiment à ce qu'elles disent. Donc c'est pas tout à fait du mensonge. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant dans la mauvaise foi, c'est que celui qui est de mauvaise foi, vraiment, profondément, c'est celui qui se fait croire à lui-même ce que, quelque part, il sait tout de même être faux. Vous voyez ? C'est ça qui est très étrange. C'est qu'il y croit, oui, en un sens, à ce qu'il dit, mais et en même temps, quelque part, comme on dit, quelque part, il sait bien que c'est pas ça. C'est pas vrai. Et c'est ça qui est étrange. C'est ça qui est énigmatique. C'est-à-dire que l'homme de mauvaise foi croit à ce qu'il dit. Il croit à ce qu'il dit. Et donc, de ce point de vue-là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que le mensonge à soi, puisque c'est comme ça qu'on définit la mauvaise foi, vous ne pouvez pas dire que le mensonge à soi est tout à fait un mensonge. Alors, on est embarrassé hein, pour définir la mauvaise foi. Et c'est là que nous nous heurtons à un certain nombre de difficultés. J'en compte trois. La première, est-ce que je peux prouver la mauvaise foi de l'autre ? Aucunement. Aucunement, parce que je peux prouver son mensonge à un menteur en le mettant en face de la vérité qu'il dissimule ou qu'il cache. Pas difficile, enfin, pas toujours difficile. Hein ? On peut le mettre en face de ses mensonges. Mais pour être certain de la mauvaise foi d'un autre, il faudrait le mettre en face de sa propre conscience. Étant donné que c'est sa conscience qui se trompe en se faisant croire ce qu'elle dit. On pourrait pouvoir le mettre en face de sa conscience. Vous admettrez que c'est pas possible. Comment mettre la conscience de l'autre en face d'elle-même ? Bon, vous voyez, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, comment la conscience de l'homme de mauvaise foi peut-elle être capable d'autant d'ambiguïté ? C'est ça qui est étrange dans la mauvaise foi. Il y a quelque chose dans la mauvaise foi de très ambigu. Hein, on ne sait pas bien situer celui qui est de mauvaise foi. On ne sait pas s'il sait, on ne sait pas s'il croit, on ne sait pas s'il croit à ce qu'il dit. Enfin, on n'arrive pas à cerner. On est déstabilisé par celui qui est dans la mauvaise foi. Alors, essayons de caractériser justement l'ambiguïté de celui qui est dans la mauvaise foi. D'abord, je dirais que la mauvaise foi, ce n'est ni de la dissimulation, ni de la simulation. Et on était tenté au départ d'identifier la mauvaise foi à une forme de dissimulation. Bien non, ce n'est pas l'homme de mauvaise foi, ce n'est pas un dissimulateur, ce n'est pas non plus un simulateur. Le dissimulateur sait parfaitement ce qu'il croit. Et il ne dit pas ce qu'il croit. D'accord. Le simulateur sait parfaitement qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Et il le dit pourtant. D'accord. Donc, oui, c'est vrai que souvent on a tendance à réduire la mauvaise foi à une forme de dissimulation, mais justement, c'est pas ça, ça va pas, ça, parce que cette réduction ne nous permet pas vraiment de cerner la mauvaise foi. Ce qui est tout de même étrange de la mauvaise foi, c'est justement cette ambiguïté qui fait qu'on ne sait pas si celui qui parle, il croit ou il ne croit pas à ce qu'il dit. Alors, pour le dissimulateur, comme pour le simulateur, il n'y a aucune confusion interne. C'est-à-dire qu'ils ne confondent ni l'un ni l'autre leurs intentions, leurs convictions réelles qu'ils cachent, avec leur conduite affichée. Il n'y y a vraiment une claire distinction pour eux entre ce qu'ils pensent, leurs intentions réelles, et puis ce qu'ils affichent hein, à l'extérieur. Hein. Ils savent très bien qu'ils simulent ou dissimulent. Mais l'homme de mauvaise foi ne sait pas, lui, s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi. Ce qui est intéressant dans l'idée de mauvaise foi, c'est qu'il y a l'idée de foi, une forme de croyance. C'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup plus ambigu. Donc on ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire non plus l'inverse. Il croit ce qu'il dit, il croit qu'il dit ce qu'il croit, alors même qu'il n'y croit pas vraiment. Si je peux dire les choses comme ça. Alors comment la conscience est-elle capable de tant d'ambiguïté? Ça, c'est le deuxième problème. Et puis, troisième difficulté, si, comme on l'explique spontanément, être de mauvaise foi, c'est se mentir à soi-même, comment un tel mensonge peut-il marcher? Comment un tel mensonge peut-il être efficace? J'analyse. Pour qu'un mensonge puisse réussir, il faut que le menteur sache bien ce qu'il cache ou ce qu'il déforme. Vous êtes d'accord? Pour mentir à soi-même, si j'applique, pour mentir à soi-même, il faut donc savoir ce que l'on se cache. Mais comment se le cacher? Puisque précisément, on sait ce qu'on doit se cacher. Vous voyez, vous êtes pris dans une contradiction. Donc, vous voyez que si on prend l'expression au pied de la lettre, le mensonge à soi, qui est censé caractériser la mauvaise foi, le mensonge à soi paraît impossible. Il paraît impossible. Or, chacun peut en témoigner, la mauvaise foi existe réellement. Elle existe bien. C'est vrai que c'est inconcevable, c'est difficile à penser, mais ça existe. Alors, comme on le voit, vous voyez que l'examen psychologique de la mauvaise foi se heurte à trois difficultés qui paraissent insurmontables. Et donc, on peut le dire, la mauvaise foi apparaît comme une énigme. Hein, elle nous apparaît comme une énigme. Et pour résoudre cette énigme, on ne pourra pas en rester à une description psychologique. Il va falloir s'interroger sur la conscience et sur la foi. Justement, puisqu'on parle de foi, sur la foi qui constitue cette mauvaise foi. On parle aussi de la bonne foi. Vous voyez ? Donc, alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Et pour comprendre donc la conduite de mauvaise foi, il va falloir s'interroger philosophiquement sur ses conditions de possibilité. Or, la première de ces conditions, c'est, comme je l'ai dit, l'existence de la conscience. Seule, c'est ce que nous allons comprendre avec Sartre, seule une conscience peut être de mauvaise foi. Seule une conscience peut être de mauvaise foi parce qu'elle a une structure telle qu'elle rend possible la mauvaise foi. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et donc, la possibilité qu'a toute conscience d'être de mauvaise foi, eh bien, révèle d'une certaine façon le mode d'être de la conscience. C'est-à-dire que la mauvaise foi, si vous voulez, est révélatrice de ce qu'est la conscience, de ce qu'est la structure de la conscience. Vous voyez ? Et donc, on va voir deux choses. Hein, si j'expose le problème qu'on va traiter, on va voir deux choses. D'une part, l'analyse de la mauvaise foi nous permettra de mieux comprendre donc, le mode d'être qui constitue notre réalité humaine, c'est-à-dire le mode d'être d'une conscience. Ça, c'est vraiment capital. Si vous voulez, si la mauvaise foi occupe une place si importante dans l'être et le néant, c'est parce qu'elle est révélatrice de la structure de la conscience. Et puis, d'autre part, on verra ce qui, justement, dans la structure même de la conscience, permet à la mauvaise foi d'exister, rend possible la mauvaise foi. Voilà, si vous voulez, les choses. Alors, donc, dans un premier temps, je vais bah, redire un certain nombre de choses qui me paraissent importantes. On est obligé de les redire. Pour clarifier les choses, il faut que je fasse quelques rappels sur la conscience. Alors, je vous indique d'abord très brièvement les quelques points que je vais un peu développer. D'abord, on va montrer que la conscience, on l'avait déjà fait, mais on va le rappeler. On va d'abord rappeler que la conscience s'oppose aux choses. On va ensuite montrer qu'elle se rapporte aux choses en les néantisant. Ensuite, on va montrer qu'elle ne peut pas se saisir elle-même comme objet, qu'elle ne peut pas se connaître, elle ne peut pas se saisir comme objet, car elle n'est pas justement un être. Elle est un néant d'être. Ensuite, quatrième point, la conscience surgit toujours au milieu du monde. Elle est inséparable du monde. Elle est inséparable des choses. Hein. Elle s'en distingue, mais elle est inséparable d'elle. Elle surgit toujours au milieu du monde dans une situation qu'elle n'a pas choisie. Et ce que Sartre va appeler, dans son jargon, la facticité, eh bien, c'est tout simplement la condition dans laquelle on est placé. C'est-à-dire que on est toujours placé dans une condition que nous n'avons pas choisie. Alors, notre naissance, le milieu dans lequel nous avons grandi, notre société, etc., et puis le regard des autres, et puis le fait d'être mortel. C'est ça, notre facticité. C'est-à-dire, il y a des faits irréductibles qui s'imposent à nous. Mais, donc, on globalise, on entend de manière générique, on utilise de manière générique le terme de facticité pour désigner cet ensemble de faits qui désigne notre condition. Mais évidemment, cette facticité n'a de sens que celui que la conscience lui donne. C'est l'homme qui, par sa conscience, donne sens à la situation à laquelle il fait face. Vous voyez ? Et ça, ce n'est pas la situation qui engendre ce sens, c'est la conscience qui donne sens à la situation. Ainsi, si vous voulez, si vous regardez bien, et c'est ce qu'on va un peu développer, parce que ça, c'est important, il faut bien rappeler ces choses-là, on finit par bien les comprendre à la fin. Hein, c'est que l'existence humaine a une double dimension. Elle a une double dimension. Un, première dimension, la facticité. J'ai un corps. J'ai affaire à tel milieu social, j'ai tel passé, je suis confronté au regard des autres. Ça, c'est la facticité. Et puis, il y a la transcendance de l'existence humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, la transcendance? Eh bien, le fait, tout simplement, qu'elle n'est pas réductible à sa facticité. Le fait qu'elle est toujours au-delà de la condition dans laquelle il est placé, dans laquelle elle est placée par sa conscience. La conscience fait que je suis toujours au-delà de la situation dans laquelle je suis placé. C'est ça la transcendance. Hein. La transcendance, n'allez pas imaginer que c'est un terme sorcier, simplement le fait qu'on est toujours au-delà, par sa conscience, de la condition dans laquelle nous nous trouvons. Que nous ne nous réduisons jamais, au fond, à la condition d'existence dans laquelle nous sommes placés. Ne serait-ce que parce que la conscience donne sens à cette situation et puis qu'elle décide, au fond, de ce qu'elle va en faire. Vous voyez ? Donc ça, c'est, vous voyez, une double dimension pour ça, la facticité, la transcendance. L'existence humaine est ambiguë puisqu'elle est à la fois facticité et transcendance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir, parce que ça va servir pour réfléchir à la mauvaise foi. Alors, donc, reprenons ces points en les développant un peu plus. Donc, la conscience, d'abord, s'oppose aux choses. Je m'excuse de redire des choses qu'on avait déjà dites, mais il faut les redire, je pense. Bien se mettre, vous voyez, en place les idées. La conscience s'oppose aux choses, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'être d'une chose. Elle n'est pas un être en soi, pour parler comme Sartre. Elle n'est pas un être en soi. Alors, une chose, qu'est-ce que c'est qu'une chose? Une chose, quelle que soit la chose, hein, une table, une chaise, peu importe. Une chose a une consistance et une permanence. dans l'espace et le temps. Voilà, ce qui constitue une chose, c'est qu'elle a une identité, un être. On peut la définir. Vous voyez, on peut la définir. Elle est en elle-même ce qu'elle est, et elle n'est rien que ce qu'elle est, et tout ce qu'elle est. C'est-à-dire, au fond, pour le dire de manière philosophique, je dirais que la chose obéit au principe d'identité. Elle obéit au principe d'identité, c'est-à-dire elle reste identique à elle-même. Alors ça ne veut pas dire qu'elle soit pas, ça veut pas dire qu'elle soit pas soumise à des changements, mais c'est des changements qui s'expliquent par des processus, c'est autre chose. Vous voyez ? C'est pas parce que je dis ça qu'il n'y a pas de devenir. Hein ? Je dis simplement ce devenir, en tout cas, elle n'en a pas l'initiative. Hein ? Voilà. Donc, principe d'identité, voilà ce qui constitue une chose. Alors, la conscience, c'est le contraire d'une chose. Elle est le contraire d'une chose, puisqu'elle est constamment ouverte, sur autre chose qu'elle. Prenez votre temps. Oui.
Excusez-moi.
Non, il n'y a pas de problème.
Je suis pris d'une quinte de tout, il faut que ça se passe.
Oui, oui, je vous en prie. Alors, donc, je répète, je reviens, la conscience est tout le contraire d'une chose, c'est-à-dire qu'elle est constamment ouverte sur autre chose qu'elle, puisqu'elle est rapport à autre chose qu'elle. On a beaucoup insisté là-dessus, hein, toute conscience est conscience de quelque chose. Hein. Donc, au fond, c'est ça l'idée, c'est que la conscience, elle est foncièrement ouverture à autre chose qu'elle. Contrairement aux choses qui sont enfermées en elle. Et la conscience s'apparaît à elle-même, non pas comme une chose, mais comme une activité, comme une pure activité, comme un mouvement, comme le mouvement par lequel elle vise autre chose qu'elle. Vous vous souvenez, hein, on a déjà aussi beaucoup insisté là-dessus. Hein. Sartre essayait d'utiliser des métaphores pour désigner cette activité, ce mouvement, il parlait d'un vent, vous voyez, bon, parce qu'on essaie de trouver des métaphores hein, qui permettent d'exprimer hein, cette mobilité de la conscience. Elle n'est pas une chose. Hein, une chose est ce qu'elle est, la conscience, elle n'est pas ce qu'elle est. Elle est tout le temps en mouvement vers autre chose. Donc si la chose est ce qu'elle est, et si la conscience est tout le contraire, eh bien, il est par principe impossible à la conscience d'être ce qu'elle est. Par principe, elle n'est pas ce qu'elle est. Et la réalité humaine, du fait d'être conscience, du fait qu'elle est conscience, alors là, je vais utiliser une formule qui revient souvent chez Sartre, surtout dans les passages que nous lisons en ce moment. La réalité humaine, du fait qu'elle est conscience, est ce qu'elle n'est pas et n'est pas ce qu'elle est. Alors, ça, c'est une formule, je l'ai expliqué dans l'émission, je vais revenir un peu sur cette explication, qui n'est pas sorcière. Ça fait un peu jeu de mots de l'extérieur. Hein, ça fait un peu jeu de mots. Mais, je répète, ce n'est pas un jeu de mots. On peut parfaitement comprendre ce que veut dire ça. Je reprends la formule. Elle est ce qu'elle n'est pas et n'est pas ce qu'elle est. Alors, première proposition, elle est ce qu'elle n'est pas. Elle est ce qu'elle n'est pas en ce qu'elle est conscience de quelque chose qu'elle n'est pas. Hein ? La conscience est conscience de quelque chose qu'elle n'est pas. Donc elle est ce qu'elle n'est pas. Je prends un exemple. La conscience de cet arbre, eh bien c'est la conscience de cet arbre qu'elle n'est pas. En tant que conscience de cet arbre, elle est ce qu'elle n'est pas. Voilà ce que ça veut dire tout simplement. Avec des exemples, on s'en sort toujours. Et puis en même temps, la conscience n'est pas réductible à la conscience qu'elle est de quelque chose. La conscience n'est pas réductible à la conscience qu'elle est de ce quelque chose. Elle n'est pas ce qu'elle est. Elle n'est pas ce qu'elle est, puisqu'elle est toujours au-delà de ce qui se donne à elle. Elle est toujours au-delà des objets qu'elle vise. Vous voyez ? Elle ne se limite pas à être une conscience d'arbre. Hein ? Et elle peut se rapporter encore à autre chose. Vous voyez ? Donc, elle est ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas ce qu'elle est. C'est une manière, enfin, bien sûr, c'est une sorte de paradoxe qui permet de rendre compte de ce mouvement perpétuel qui constitue la conscience. Donc, ce qui la caractérise, c'est ce perpétuel mouvement de néantisation, vous voyez, par lequel elle se distancie des choses qui lui apparaissent, et par laquelle et par lequel elle s'arrache à elle-même. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, on avait beaucoup insisté sur cette notion de néantisation. Eh bien, au fond, la néantisation, c'est l'expression, c'est le terme technique pour exprimer, finalement, ce mouvement par lequel la conscience est en perpétuel décalage avec elle-même. Hein ? Elle ne coïncide jamais avec son être, et elle est toujours... Elle se distancie en permanence de ce à quoi elle se rapporte. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas elle-même se saisir comme une chose. Elle ne peut pas se saisir comme objet. Elle ne peut pas se connaître. Parce que se connaître, c'est se connaître comme objet. Elle est toujours présente à elle-même. Elle est toujours présente à ses actes. Elle est présente à elle-même comme activité. Lorsqu'elle se rapporte à un objet, elle est présente à elle-même. Hein, quand elle est consciente de quelque chose, elle est en même temps consciente de soi, en tant qu'activité. Mais elle ne peut pas se saisir elle-même comme objet. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est rien. Elle n'est rien en elle-même. Elle est un néant d'être. Vous ne pouvez pas saisir, la conscience est un néant d'être par lequel elle met l'être en question. Hein. Elle ne peut pas se saisir comme être. C'est ce néant d'être qui fait que ça bouge tout le temps, ça, c'est en perpétuel mouvement. Mais ce néant d'être ne peut pas être saisi. Vous voyez ? Donc, c'est là que Sartre se démarque de Descartes, de tous ces philosophes qui parlent de substance pensante, hein, qui parlent de la conscience comme d'une substance pensante, d'une chose pensante. Non, la conscience n'est pas une chose, elle ne peut pas être une chose. Elle est un pur mouvement. Voilà. Et ce que nous appelons notre moi, c'est pas la conscience. C'est une construction, si vous voulez. Bon, mais on y reviendra. Et justement, ce que nous allons voir avec la mauvaise foi, c'est que c'est précisément ce néant que l'on se défend d'être dans la mauvaise foi. Pourquoi ? Parce que dans la mauvaise foi, vous allez voir qu'on cherche à se définir comme un être. On cherche à se définir comme une chose. Mais je suis comme ça. Ou non, je ne suis pas ce que vous croyez. Vous voyez ? Car, au fond, dans la mauvaise foi, on cherche à être. On cherche à être. Et on cherche, d'une certaine manière, à échapper à sa liberté, qui fait qu'on n'est pas ce qu'on est, justement. Vous voyez ? Donc, il y a ça dans la mauvaise foi. Bon, mais on y reviendra. Alors, j'ajoute que cette conscience... n'est pas une pure activité indépendante du monde, puisqu'elle se rapporte aux choses, puisqu'elle se rapporte au monde, elle surgit dans le monde. Vous voyez ? Donc elle est inséparable d'une condition de fait que nous n'avons pas choisie, c'est ce que j'appelais la facticité. Hein, la facticité, voilà. Et évidemment, elle ne se réduit pas à cette facticité, puisque c'est elle qui lui donne sens. Hein. Je ne reprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Et alors on peut conclure ainsi que, comme je vous le dis, et ça je le reprends, il ne faut pas avoir peur de se répéter, je redis que l'existence humaine ainsi a une double dimension, facticité et transcendance. Facticité et transcendance, et pourquoi transcendance, encore une fois, parce que l'homme en tant que conscience est toujours au-delà de la condition qui est la sienne. Hein, il la met en question, si vous voulez, hein. Et il peut toujours décider de son sens. Donc il ne se réduit pas à la condition qui lui échoit. Hein. Voilà, il ne s'y réduit pas. Bon, alors maintenant abordons le fameux chapitre sur la mauvaise foi. Et ce chapitre sur la mauvaise foi, il commence par la distinction entre la mauvaise foi et le mensonge. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rapproche souvent, spontanément, la mauvaise foi du mensonge. Puisque être de mauvaise foi, ce serait se mentir. Or, qu'est-ce que mentir ? Hein, Sartre reprend cette analyse du mensonge. Mentir, c'est cacher ou déformer intentionnellement une vérité en énonçant comme vrai ce qu'on croit faux. Alors, ça ne veut pas dire que le menteur sait toujours ce qui est vrai. Il peut se tromper. Mais, vous voyez, si on est précis et exact, on ne doit pas dire que le menteur dit le contraire de la vérité, puisqu'il ne peut pas toujours prétendre la connaître. Mais, intentionnellement, il tient devant autrui pour vrai ce qu'il croit être faux. Voilà comment on doit plutôt dire les choses. Donc, le mensonge suppose que le menteur ne soit pas dupe de son mensonge. Il est le premier au courant qu'il est en train de mentir, si vous voulez. Il sait que ce qu'il dit est faux, enfin, de ce point de vue. Et à aucun moment, il ne se trouve en porte-à-faux par rapport à sa conscience. C'est-à-dire qu'il nie devant autrui ce qu'il pense être la vérité, mais il ne la nie pas pour lui-même. La négation ici, comme dirait Sartre, la négation est extérieure au menteur. Alors, deux formules que vous trouvez dans L'être et le néant que je cite, la négation ne porte pas sur la conscience elle-même, hein, quand il s'agit du mensonge, hein, elle ne porte pas sur la conscience elle-même, elle ne vise que le transcendant, alors ne vous effrayez pas du mot, le transcendant, c'est ce qui est extérieur, ce qui est extérieur à la conscience. Transcendant, ça veut dire extérieur. Voilà. Donc, au fond, le menteur est indemne, en quelque sorte, de son mensonge. Hein. Il n'est pas transformé par son mensonge, il est extérieur, hein, à son mensonge. Et comme dit encore Sartre, parce que c'est une formule aussi qu'il emploie, le mensonge est une conduite de transcendance. Voilà. Alors, le mensonge n'affecte que celui à qui on ment. Enfin, on ne se rend pas compte tout de suite, après, s'il s'en aperçoit. Et le mensonge présuppose donc une dualité entre le menteur et puis celui à qui on ment, entre le trompeur et le trompé. Vous êtes d'accord, c'est pas compliqué. Alors, est-ce qu'on peut maintenir que la mauvaise foi est de l'ordre du mensonge, se demande Sartre, puisqu'on désigne la mauvaise foi comme un mensonge à soi-même. Eh bien, il va montrer qu'on ne le peut pas. Il va montrer qu'on ne le peut pas, puisque, au fond, si vous reprenez l'exemple du mensonge, le menteur joue devant l'autre un personnage qu'il n'est pas. Hein ? Il joue sciemment un personnage qu'il n'est pas. L'homme de mauvaise foi est joué, au contraire, par le personnage qu'il joue. Il est un peu victime, enfin, oui, il est en partie victime de sa mauvaise foi. Il y croit. Il ne peut s'empêcher de croire à ce qu'il fait. Il ne peut s'empêcher de croire au personnage qu'il joue. Vous voyez ? Et Sartre, alors c'est le premier texte numéro 1. Vous l'avez sous les yeux, je ne sais pas si je l'ai pour moi-même. Vous avez un premier texte. Oui, c'est ça, en haut. Bon, je vous dis le passage, il n'est pas très long. Il ne saurait en être de même pour la mauvaise foi si celle-ci, comme nous l'avons dit, est bien mensonge à soi. Certes, pour celui qui pratique la mauvaise foi, il s'agit bien de masquer une vérité déplaisante ou de présenter comme une vérité une erreur plaisante. La mauvaise foi a donc en apparence la structure du mensonge, en apparence. Seulement, ce qui change tout, c'est que dans la mauvaise foi, c'est à moi-même que je masque la vérité. Ainsi, la dualité du trompeur et du trompé n'existe pas ici. La mauvaise foi implique au contraire, par essence, l'unité d'une conscience. Et plus loin, j'ajoute une autre formule, Sartre explique que dans la mauvaise foi, la conscience s'affecte elle-même de mauvaise foi. Je reprends exprès ce verbe, hein, pronominal, elle s'affecte elle-même de mauvaise foi. Donc elle n'est pas indemne, si vous voulez. La négation porte sur elle-même. Bon. Alors, donc le problème, évidemment, on s'en doute, c'est de savoir comment on peut ainsi se mentir à soi-même. Comment on peut être de mauvaise foi? Je l'ai montré tout à l'heure, se mentir à soi-même pose un problème insurmontable. Et pourquoi c'est insurmontable pour Sartre? Eh bien parce que pour Sartre, la conscience est translucide. Alors qu'est-ce que ça veut dire, translucide? Ça veut dire qu'elle est présente à elle-même dans son activité. Elle est présente à elle-même en se rapportant aux choses qu'elle vise. Elle est présente à elle-même, ça veut dire qu'elle est présente à ses actes. Ou pour le dire de façon un peu vulgaire, elle est au courant de tout ce qui se passe en elle. Elle est au courant de tout ce qui se passe en elle, donc il n'y a pas de distinction à faire entre le psychisme et la conscience. Or, si la mauvaise foi est quelque chose dont la conscience s'affecte elle-même, cela signifie que la conscience qui se ment doit nécessairement s'apparaître à elle-même comme trompée. Mais comment son mensonge peut-il alors ne pas lui apparaître? Elle est trompée, mais elle doit bien s'apparaître trompeuse aussi. Comment le mensonge, hein, peut-il ne pas lui apparaître? Alors, c'est là la difficulté, c'est là le problème, c'est là, effectivement, ce sur quoi on bute tout le temps. Pour pouvoir se mentir à soi-même, il faut qu'on sache la vérité pour pouvoir se la cacher. Et il faut en plus qu'on sache précisément ce qu'on doit se cacher. Mais alors, ce que je sais, comment me le cacher? Vous voyez, toujours cette difficulté. Alors devant ce problème, devant ce paradoxe, Sartre, dans un premier temps, rappelle la solution proposée par Freud, le fondateur de la psychanalyse. Là, vous avez des pages. Alors évidemment, il s'appuie sur le Freud qu'on connaît à l'époque. D'ailleurs, il en fait, à mon sens, un très très bon résumé. Bon, il y a des choses qui évolueront après dans l'œuvre de ça, mais disons que c'est un exposé très honnête, hein, de la psychanalyse qu'il fait. Et la solution de Freud consiste, si on y réfléchit bien, à renoncer à la translucidité de la conscience. Pour Freud, il n'y a pas de translucidité de la conscience. C'est-à-dire que la conscience ne saisit pas tous les aspects de la vie psychique. Il y aurait, selon Freud, du psychique qui échappe à la conscience. C'est-à-dire que, pour Freud, il y a une distinction à faire entre le psychique et le conscient. Eh bien, Sartre, donc, avant de réfuter l'hypothèse freudienne, eh bien, il en fait l'exposé. Et là, je vous propose de regarder le texte numéro 2, le texte qui est toujours sur la même page. Pas tout, hein, mais le début. Vous avez un passage, là, qui me paraît très, très, très clair. Pour échapper à ces difficultés, on recourt volontiers à l'inconscient. Et dans l'interprétation psychanalytique, par exemple, on utilisera l'hypothèse d'une censure, conçue comme une ligne de démarcation avec douane, service de passeport, contrôle de devises, etc., etc., pour rétablir la dualité du trompeur et du trompé. Vous voyez, hein, ça me paraît très clair. C'est-à-dire, au fond, la solution de la psychanalyse, elle consiste à rompre l'unité de la conscience à laquelle ne veut pas renoncer Sartre, pour considérer qu'au fond, il y a deux personnages, le trompeur et le trompé, à l'intérieur du psychisme. Alors, il y a le trompeur, on peut appeler ça à la façon de Freud le « ça », si vous voulez, hein, si on parle de sa deuxième topic, et puis le trompé, ce serait, pour simplifier, le « moi », enfin la conscience, etc. Mais il y a deux, comme deux personnages qui ne sont pas les mêmes. Alors que si vous maintenez l'idée de la mauvaise foi, vous insistez sur la translucidité de la conscience, sur l'unité de la conscience, hein, qui fait tout le psychisme, et ben, il n'y a pas de personnage, c'est le même. Donc la solution de Freud, c'est de rompre avec l'idée d'une translucidité de la conscience. Alors, par exemple, ici, des faits comme des phobies, des rêves, des lapsus, ce sont des faits qui existent bien réellement. Mais, et là c'est l'explication de Freud que rappelle Sartre, mais ils se manifestent à la conscience sans être des manifestations de la conscience. Ce qui est conscient n'a pas forcément pour origine la conscience. Vous voyez ? C'est-à-dire que, selon l'hypothèse de Freud, la cause de ces faits, les phobies, les rêves, etc., la cause de ces faits se trouve en dehors de la conscience, dans la vie inconsciente du psychisme. En conséquence, eh bien, la conscience se trompe sur le sens de ces faits. Elle leur attribue spontanément un sens qui n'est pas le bon. Elle se trompe. Et elle se trompe sur elle-même en se croyant leur cause, en se posant comme leur cause. Donc la vérité de ces faits se trouve en dehors d'elle et leur véritable signification lui échappe. Alors, regardez lignes 17-18 du même texte, ici. J'ai souligné le passage. Le sujet, simplement le sujet, est devant ces phénomènes comme le trompé devant les conduites du trompeur. Le sujet est devant ces phénomènes, phobie, acte manqué, etc. Et elle est devant ces phénomènes comme le trompé devant les conduites du trompeur. C'est-à-dire, au fond, je reprends, l'hypothèse de Freud revient à établir une dualité dans le psychisme, la même dualité que l'on observe dans le mensonge entre le menteur, entre le trompeur et puis le trompé. C'est comme s'il y avait deux personnages. C'est-à-dire qu'au fond, l'inconscient, c'est le menteur, si on peut dire. Il est comme un autre dont je subis le mensonge. Je suis victime de son mensonge. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est un peu, oui, c'est ça que dit Freud. Et qu'est-ce qui constitue cet inconscient ? Eh bien, dit Freud, ce sont les tendances refoulées, celles qui sont interdites de séjour dans la conscience et ne peuvent s'y exprimer que de manière déformée, méconnaissable, étant donné le refoulement. Alors Freud explique que le refoulement est une force qui rejette un certain nombre de contenus et elle ne parvient pas, bien sûr, à les éliminer. Ils sont toujours là, ils sont présents, ils tentent à faire retour, mais cette force qu'est le refoulement va déformer le contenu latent de ces tendances, hein, qui ne s'exprimera pas à ciel ouvert, puisque ces tendances, elles vont s'exprimer de façon méconnaissable à la conscience dans le contenu manifeste. Hein, c'est la distinction que fait Freud entre le contenu latent et le contenu manifeste. Donc, et comme je ne suis pas conscient de ces tendances, bah, je ne peux pas les connaître. Je ne peux pas les connaître et je ne peux bien sûr pas non plus comprendre leur expression déformée dans ma conscience. Vous voyez, je suis démuni. Et comme je ne peux pas connaître les véritables motivations qui m'animent, bah, j'y adhère sans distance aucune. Je suis abusé. Je suis abusé par mon inconscient. Il me roule dans la farine. Hein ? Je répète toujours les mêmes attitudes sans comprendre ce qui m'arrive. Alors j'accuse le destin. Bon, mais voilà, c'est ça que. Alors, D'ailleurs, Sartre cite un petit exemple à la fin de son texte. Il parle du vol. Il fait certainement allusion au sujet kleptomane, qui est attiré irrésistiblement par le vol. Il ne peut pas s'empêcher de voler, mais il ne sait pas pourquoi. Et si une interprétation psychanalytique pouvait se mener, eh bien, on comprendrait le sens véritable de cette conduite. On montrerait qu'il y a là un processus d'autopunition, hein, un processus d'autopunition de la part, au fond, de ce kleptomane. C'est-à-dire, dans la kleptomanie, au fond, il y a comme une sorte de secret désir, mais inconscient, de transgresser une loi pour pouvoir être puni. Hein, on joue avec le feu, quoi. Quelque chose qui pousse l'individu à transgresser et à risquer, effectivement, la sanction. Bon, enfin, c'est l'explication qui est donnée. Alors, on pourrait aussi, pour illustrer ce que dit Sartre sur Freud, on pourrait aussi citer l'exemple de celui qui est jaloux de façon obsessionnelle. Il y a peut-être derrière sa jalousie obsessionnelle un désir homosexuel inconscient refoulé, vous voyez, par exemple. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris ce que dit Freud. Alors, si je ne suis pas au fait de mes motivations inconscientes, eh bien, c'est de bonne foi que j'y adhère. Je suis de bonne foi quand j'y adhère. Hein ? Je ne suis pas de mauvaise foi. La mauvaise foi n'a pas de sens. Il n'y a pas de mauvaise foi. J'y adhère, enfin, quand j'adhère à ces motivations, j'adhère en fait à leur expression manifeste, à ma conscience, hein, qui cache leur véritable signification. Et comme on le voit, selon l'hypothèse freudienne, il y a un mécanisme de censure. Un mécanisme de censure qui me cache mes véritables motivations. Je ne peux pas y avoir accès. Il y a une censure qui m'interdit d'avoir accès à mes véritables motivations. Et c'est sur ce point que porte la réfutation de Sartre. C'est là-dessus qu'il porte sa réfutation. Comment se fait-il ? Demande Sartre. Comment se fait-il, si la censure est inconsciente, comment se fait-il qu'elle choisisse entre les tendances, entre les pulsions, celles qui peuvent être satisfaites et celles qui, au contraire, doivent être refoulées ? On nous dit que la censure est un mécanisme inconscient et on nous dit en même temps qu'elle choisit, qu'elle sélectionne, qu'elle élimine. Donc ça veut dire qu'elle est capable de discernement et elle est capable de reconnaître la qualité d'une tendance, sa conformité ou non à ce qui doit être la loi. Alors, s'il s'agissait d'un mécanisme inconscient, bien encore une fois, cette censure ne pourrait pas reconnaître et discerner les tendances qu'elle doit masquer. Et si la censure les reconnaît, c'est bien que la censure est consciente. C'est bien que la censure est consciente de ce qu'elle censure et qu'elle ait conscience d'être censure. En conséquence, si la censure est consciente d'elle-même, elle n'est rien d'autre que la mauvaise foi. Au fond, ce que raconte Freud sur l'inconscient, sur la censure, etc., c'est de la mauvaise foi. Et lui-même est de mauvaise foi, parce qu'il se dissimule à lui-même la mauvaise foi. Comme en la faisant passer pour un mécanisme, vous voyez, bon, c'est, il y a tout un jeu. Alors, dès lors, on ne peut plus supposer d'inconscient qui se trouve derrière la conscience. Il y a seulement la conscience, il y a uniquement la conscience. Mais c'est une conscience qui se met en porte-à-faux avec elle-même et peut se dissimuler à elle-même ce qu'elle sait. La mauvaise foi, hein, consiste à se dissimuler à soi-même ce qu'on sait. Alors, vous voyez que Sartre va exclure l'idée d'inconscient, qu'il trouve contradictoire. Il va exclure cette idée d'un inconscient actif qui conditionnerait à notre insu nos comportements conscients. Il maintient la thèse d'une translucidité de la conscience. Ça veut dire que la conscience est transparente à elle-même. Et d'ailleurs, sans cette transparence, on ne peut plus parler de liberté. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour Sartre, la thèse de la translucidité de la conscience est solidaire de celle de la liberté de la conscience. C'est-à-dire que si la conscience était déterminée de l'extérieur par un inconscient psychique, elle ne serait pas vraiment libre. Elle ne serait pas vraiment libre. Ou alors, vous n'auriez affaire qu'à une liberté sous caution. Sous caution de l'inconscient. Une liberté avec, comme on fait là aujourd'hui pour les gens qui ont le droit d'être, pas être emprisonnés, là, bracelet électronique. Une liberté sous bracelet électronique. Bon. Donc, il faut considérer que la conscience puisse ne pas vouloir se connaître, aussi étrange que ça puisse paraître. Il faut considérer qu'elle puisse vouloir se dissimuler ses motivations, les motivations qu'elle connaît, et qu'il n'y a là aucun déterminisme. La mauvaise foi n'est pas un processus indépendant de la conscience. C'est un processus qui relève, au fond, d'un choix. Elle procède de la liberté de la conscience. C'est une conduite par laquelle, au fond, la conscience se masque à elle-même sa liberté. Voilà, c'est ça qu'il va falloir maintenant bien comprendre. C'est-à-dire que la conscience est libre, elle est fondamentalement libre, vous voyez en quel sens, hein, on l'a expliqué en long et en large. Mais cette liberté, elle se la dissimule. Mais c'est librement qu'elle se la dissimule. Et si c'est librement qu'elle se la dissimule, elle peut s'en libérer. Je veux dire que la mauvaise foi n'est pas une fatalité. Hein, c'est pas quelque chose qui va se répéter comme Freud montre par exemple que le névrosé répète inlassablement sans pouvoir s'en sortir tout seul. Hein. Alors, et ce qui est intéressant, ce que je voudrais dire, c'est que Sartre a toujours rejeté Freud, mais en même temps, il a toujours été intéressé. Comment dire? Effectivement, il ne peut pas admettre l'hypothèse de l'inconscient, mais au fond, quand on regarde bien ce qu'il dit de la névrose, et quand il parle de la mauvaise foi, c'est très très proche de ce que dit Freud de l'inconscient, sauf qu'il n'accepte pas l'explication. Il n'en accepte pas l'explication, vous voyez. Et quand je parle, quand on parle de la mauvaise foi chez Sartre, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de profond. Hein. L'individu lui-même y croit, il est lui-même sa propre victime, si vous voulez. Hein. Alors, donc, la liberté se nie en se faisant croire qu'elle est une chose. Voilà, ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'homme de mauvaise foi se fait croire qu'il a un être comme les choses ont un être. C'est ça que nous allons maintenant expliquer. Et c'est ce que nous allons voir avec les exemples donnés par Sartre dans la deuxième partie du chapitre. Donc le problème, je repose le problème, il est celui de savoir comment la conscience recèle en elle-même la possibilité de se duper, la possibilité de se tromper. Comment la conscience peut-elle recéler en elle-même la possibilité de se tromper en le sachant ? En le sachant. Et donc l'examen que fait Sartre des conduites concrètes de mauvaise foi, que vous allez voir, est justement destiné à mieux cerner, je cite Sartre, à mieux cerner les conditions de possibilité de la mauvaise foi. S'il décrit, vous voyez, ces exemples de mauvaise foi concrets, eh bien, c'est, dit-il, pour mieux cerner les conditions de possibilité de la mauvaise foi. Donc, et il s'agit, je cite encore Sartre, de mieux répondre à la question « Que doit être l'homme ?» en son être, s'il doit pouvoir être de mauvaise foi. Que doit être l'homme en son être, s'il doit pouvoir être de mauvaise foi? Alors, il aborde trois exemples. Alors, il y a d'abord, dans l'ordre, hein. Alors, il y en avait un aussi, la femme frigide à la fin, bon, enfin, on ne peut pas tous les citer, et il reprend cet exemple à un psychanalyste qui a rompu avec Freud, Steckel, et qui était dans la mouvance du freudisme, mais qui a abandonné l'hypothèse de l'inconscient. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il choisit Steckel pour parler de cette femme frigide. Alors, les trois exemples, Il y a celui de la jeune coquette, la jeune femme coquette, qui se rend à son premier rendez-vous avec un homme. Alors, c'est assez amusant, il faut dire les choses, hein, ce texte. Assez... Et il y a celui du garçon de café, et puis il y a celui de l'homosexuel, qui se sent coupable d'être homosexuel et cherche à s'en disculper aux yeux d'autrui. Hein, vous avez ces trois exemples. Alors, le troisième, je l'ai déjà un petit peu expliqué dans l'émission des rendez-vous de Philopope, mais je vais le reprendre tout de même. Et je vais même partir de lui parce qu'il est le plus simple à expliquer. Donc, tous ces exemples ont des caractéristiques communes qu'il faut et qu'on peut déjà dégager. Avant de les lire, je voudrais dire qu'il y a des structures communes, il y a des caractéristiques communes à tous ces trois exemples. Dans tous ces exemples, les personnages sont en proie à l'angoisse. Et se trouvent en situation difficile par rapport à autrui. Vous voyez, il y a ces deux choses-là. Hein. Il y a l'angoisse, et puis ce qu'on peut appeler l'aliénation, c'est-à-dire la dépendance à autrui. Dans ces trois exemples, la jeune coquette, par exemple, est exposée au désir de son partenaire. Le garçon de café... Il est exposé au regard des consommateurs, des clients. Et puis l'homosexuel, il est exposé au jugement de ses censeurs. Vous voyez ? Vous avez quelque chose de commun, même si c'est très différent. Les uns et les autres, donc, sont de mauvaise foi parce qu'ils luttent contre l'angoisse et contre l'aliénation qui commande à leur situation. Vous voyez ? Et là, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, je répète, l'aliénation, c'est la dépendance au regard de l'autre. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus, sur ces points communs, à ces trois exemples, pour dire tout de suite que la mauvaise foi, finalement, c'est une stratégie défensive. Elle relève d'une stratégie défensive, mais ce n'est pas une stratégie défensive assumée. C'est-à-dire que cette stratégie défensive, qui est celle de la mauvaise foi, n'apparaît pas comme telle au sujet qui adopte une conduite de mauvaise foi. Celui qui adopte une conduite de mauvaise foi ne s'avoue pas adopter une stratégie défensive. Il prétend avoir d'autres buts. Vous voyez ? Alors, dans la mauvaise foi, la conscience refuse en effet de reconnaître qu'elle est sur la défensive parce qu'elle ne veut pas s'avouer qu'elle est en danger du fait de la présence de l'autre. Elle ne veut pas s'avouer qu'elle est en danger du fait de la présence d'autrui. Rappelez-vous, et ça il faut encore une fois le rappeler, que la conscience n'a pas la consistance d'un être. Souvenez-vous que la conscience est ce qui fait que nous ne coïncidons jamais avec notre être. Hein, on l'a suffisamment dit, mais il faut le reprendre. C'est-à-dire, ce que je saisis en moi, ce n'est jamais un être. C'est un néant d'être. Parfois, je n'ai pas d'identité. C'est ça qu'il faut bien comprendre avec Sartre. C'est que nous n'avons pas d'identité. L'identité est une illusion, est un leurre. Mais nous sommes là en quête d'identité, ça oui, mais nous n'avons pas d'identité. Puisque nous sommes perpétuellement en question dans notre être, puisque nous ne pouvons jamais coïncider avec notre être, puisque c'est ça la conscience. Donc, par la conscience, je ne suis rien. Je ne suis rien et j'ai perpétuellement à être. Vous voyez ? Bon, donc, du point de vue de la conscience, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'être, il n'y a rien. Et maintenant, comme d'ailleurs y insistera ensuite Sartre dans la troisième partie de l'être et le néant, qui traite des relations avec autrui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons de réalité que pour et par autrui. Nous n'avons de consistance que pour et par autrui. C'est-à-dire, ça, c'est une chose qu'on va revoir. Hein. C'est-à-dire, c'est autrui qui, par sa présence, alors, La présence d'autrui, Sartre l'appelle le regard. Mais ça va au-delà du regard, hein, si vous voulez. Symbolise cette présence par le regard. Là, c'est autrui qui, par sa présence, m'assigne un être, m'assigne une identité. Puisque, au fond, je me découvre comme pouvant être vu, comme pouvant être jugé, comme pouvant être observé par autrui. Au fond, j'ai un moi par autrui. C'est autrui qui me confère un moi, puisque je n'existe objectivement que par le regard d'autrui. Alors, autrui peut me juger de multiples manières, mais il suffit, il n'y a pas besoin d'ailleurs qu'il ouvre la bouche pour me juger. Il suffit que sa présence fasse irruption pour que j'existe comme moi pouvant être regardé, pouvant être jugé. Vous voyez ? Donc, c'est autrui qui, par sa présence, fait de moi un objet qui peut être défini, qui peut être jugé de telle ou telle manière. Et si j'existe comme moi, pour moi-même, c'est du fait d'autrui. Parce que je vais forcément intérioriser, au fond, ce moi que j'apparais à autrui. Mais, la pure subjectivité ne connaît pas le moi. La pure subjectivité, c'est la conscience qui n'est que ce mouvement par lequel, au fond, nous mettons sans cesse en question notre être. Vous voyez, il ne faut pas faire... Pour Sartre, il n'y a pas de, comment dirais-je, de confusion à faire entre la subjectivité et le moi. Le moi ne vient pas du sujet, il vient d'autrui. Donc la conscience est en danger du fait d'autrui. Elle est en danger du fait d'autrui, du fait de la présence d'autrui. Mais justement, la mauvaise foi va consister, en quelque sorte, à nier cette dépendance, à nier cette aliénation. Elle va consister à se faire croire à soi-même qu'on peut en faire abstraction. Et l'homme de mauvaise foi, c'est celui qui va chercher à opposer à l'autre une autre image de soi. Il va tenter de faire saisir par autrui la définition que lui prétend avoir. C'est-à-dire qu'au fond, celui qui est de mauvaise foi... C'est cet homme, si vous voulez, qui se fait croire qu'il est quelque chose, qu'il est quelqu'un, et qui va chercher à imposer, au fond, la définition qu'il a de lui-même à l'autre. Parce qu'il veut contrer, justement, parce qu'il veut contrer, effectivement, l'image qui lui vient d'autrui. Il veut que ce soit lui, je veux que ce soit moi, qui impose à l'autre la manière dont il doit me juger. Vous voyez ? La manière dont il doit me voir. C'est-à-dire que, voilà, et la mauvaise foi, c'est cette tentative par laquelle on cherche à se définir, parce que, d'une certaine façon, on y est contraint par une situation où on risque d'être aliéné par le regard d'autrui. Alors, mais le danger, il ne vient pas seulement d'autrui, il vient aussi de notre liberté qui nous angoisse. Rappelez-vous, je m'angoisse quand je me retrouve seul avec ma liberté, quand je réalise que moi seul peux décider de moi-même, qu'il n'y a rien en moi, qu'il n'y a rien, aucune tendance en moi qui soit suffisante pour déterminer mes choix. Je reprends l'exemple du vertige, le précipice, Je crois que j'ai tout de même en moi une tendance vitale qui va me sauver, qui fera que je ne me jetterai pas dans le précipice, etc. Mais je suis saisi d'angoisse quand je comprends que c'est possible que je le fasse. Bon, j'espère pas, mais c'est possible, c'est possible. Et la liberté, c'est, si vous voulez, la liberté, c'est ce choix que je fais de moi à tout moment. Et qui ne peut jamais se réduire à des tendances qui, au fond, m'orientent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'au fond, la meilleure réfutation du déterminisme, c'est l'angoisse. Qui me révèle que c'est moi qui décide de mon être. Vous voyez ? Il ne tient qu'à moi de rester sur le bord du précipice, sur le chemin, ou de me jeter. Et ça m'angoisse. Ça c'est quelque chose qui fait irruption et qui m'angoisse profondément. Donc dans l'angoisse, je me saisis sans nature. Je me découvre inconsistant. Je saisis que je n'ai pas d'être. Si j'avais un être, je pourrais me dire, ah ben non, je me connais, je ne ferais pas ça. Hein, je pourrais me reposer sur mon être pour, en quelque sorte, me dire que jamais je ne pourrais faire ça. Mais là, si j'ai compris que je suis radicalement libre, que il est possible à tout moment que je sois autre chose que ce que j'ai cru être avant, eh bien, si j'ai bien compris que je suis, par ma conscience, né en d'être, vous voyez, je suis angoissé. Ça m'angoisse. Je découvre brusquement ma liberté avec angoisse. Il y a des situations, d'ailleurs, qui nous mettent en face de notre liberté. C'est en ce sens-là qu'elles sont angoissantes. Et justement, les situations, parfois, où nous sommes confrontés au regard des autres. Et que nous ne savons pas quoi faire. Alors, s'il est impossible de ne pas être libre, s'il s'avère impossible de supprimer ma liberté, je ne peux pas supprimer ma liberté, je suis condamné à être libre. Je ne peux pas ne pas être libre. Hein. Je suis condamné à choisir. Donc, je ne peux pas la supprimer. C'est impossible. Mais je peux tenter, toutefois, de me dissimuler ma liberté. Je peux tenter de me dissimuler ma liberté et, au fond, d'étouffer l'angoisse, hein, d'occulter l'angoisse, grâce à la mauvaise foi. Grâce à la mauvaise foi. C'est-à-dire que je vais pouvoir me faire croire que je ne suis pas né en être, mais que j'ai un être. Que je suis quelque chose. Vous voyez ? Que j'ai une identité. Vous voyez, ça me permettra, justement, d'évacuer l'angoisse. Hein, l'angoisse a du bon. Hein, c'est ce qui nous rend libres. C'est ce qui fait que nous sommes conscients d'être libres. Donc, vous voyez, si je récapitule, vous voyez, il y a deux choses. Par le regard d'autrui, j'ai un être, je suis quelque chose, mais pour lui. Et quand je prétends avoir un moi, ce moi me vient d'autrui. Et par la conscience, j'échappe à cet être. Par la conscience, je ne me réduis pas à un être. Puisque la conscience, elle est née en d'être. Vous voyez, il y a des choses. L'être, la consistance d'un moi ne me vient que de mon rapport à autrui. Et en tant que conscience, je ne suis rien. Je suis né en d'être qui met perpétuellement en question cet être. Donc, par la conscience, je ne coïncide jamais avec mon être. Et vous voyez que l'être humain est écartelé à ce moment-là entre deux propriétés. D'un côté, sa facticité, encore une fois, ce qu'il n'a pas choisi, hein, la facticité, et fait partie de la facticité le regard des autres sur moi. Le regard des autres sur moi, ça fait partie de la facticité. L'homosexuel, il ne peut pas faire abstraction du fait que les autres qui sont homophobes le regardent comme homosexuel. Il ne peut pas en faire abstraction. Le juif, hein, parce que c'est l'exemple du texte de Sartre, le fameux texte sur l'antisémitisme, hein, sur la réflexion sur la question juive. Le juif ne peut pas faire abstraction du fait que les autres, les antisémites, le caractérisent comme juif avec tout ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez ? Ça, c'est fait partie de la facticité. Et puis, de l'autre côté, il y a la transcendance. La transcendance, c'est-à-dire le fait, encore une fois, que par la conscience, je ne suis pas réductible à cette facticité, que je lui échappe, que je lui donne sens, que je suis toujours au-delà de toute condition donnée de mon existence. Et donc il y a une ambiguïté de l'existence humaine sur laquelle il faut à nouveau insister. Et c'est cette ambiguïté de l'existence humaine qui va rendre possible la mauvaise foi. Si, vous voyez, si il n'y avait pas cette ambiguïté, si l'homme n'était pas écartelé en quelque sorte entre sa facticité et sa transcendance, si t'es pas écartelé entre ces deux dimensions, la mauvaise foi n'existerait pas. Vous voyez ? La mauvaise foi, elle naît de cette ambiguïté. Alors, par la facticité, donc, je suis moi-même, et je suis moi-même par le fait d'autrui. Et toute tentative de faire échapper mon être à autrui, en étant moi-même par moi-même, parce qu'au fond, qu'est-ce que veut l'homme de mauvaise foi ? Il veut se définir lui-même par lui-même et échapper ainsi à l'emprise d'autrui. Eh bien, toute tentative, vous voyez, de me définir moi-même par moi-même pour échapper à l'emprise d'autrui et de la mauvaise foi. C'est ce que nous allons comprendre. Et par la transcendance, je suis constamment un autre pour moi-même, hein, puisque ma liberté fait que je ne coïncide jamais avec mon être, et je me projette toujours vers autre chose. Eh bien ici, toute tentative de me faire saisir par autrui comme je voudrais qu'il me saisisse, toute tentative pour lui montrer ma transcendance comme une réalité, comme une chose, relève de la mauvaise foi. C'est ce que nous allons voir avec nos exemples. Donc, comme nous allons le voir, je résume ça d'une formule, et nous passons aux exemples. On va voir, dans les exemples de Sartre, que la mauvaise foi consiste à poser sa transcendance comme facticité. C'est-à-dire que je veux qu'autrui me saisisse comme je me saisis moi-même. Vous voyez, je veux qu'il me définisse comme je me définis moi-même. Je veux poser ma transcendance comme facticité. Et elle consiste à poser sa facticité comme transcendance. C'est-à-dire que je nie la facticité qui vient d'autrui en prétendant moi-même lui donner un sens, un autre sens que ce que autrui voudrait lui donner. Mais allons voir les exemples, parce que là, effectivement, c'est une formule qui peut vous paraître un peu abstraite. Alors, premier exemple, l'homosexuel. Bon, je vous le résume, hein. Je l'ai déjà un peu fait dans l'émission, mais là, je reprends. Je répète, il vient en dernier, en fait. Donc, je commence par lui. Hein. Devrait commencer par la jeune femme coquette. Il n'est pas dans les feuilles, hein. Donc, c'est l'exemple d'un homosexuel qui se culpabilise d'être homosexuel dans une société homophobe et qui cherche à se disculper aux yeux d'autrui. Alors, son mode de défense, on peut le résumer, c'est le suivant. Il m'arrive certes d'avoir des comportements homosexuels, mais fondamentalement, je ne suis pas homosexuel. Alors, si on décrit son attitude, quand il avoue des comportements homosexuels, cet homme décrit des situations observables, qui sont observées par autrui en tout cas. C'est-à-dire, ces comportements relèvent de la facticité. Ils relèvent de la facticité, puisqu'ils sont sous le regard des autres et sous leur jugement. Donc ça, c'est la facticité. Seulement, l'homosexuel, de mauvaise foi, prétend être seul juge de sa facticité. Il prétend être seul juge de sa facticité, c'est-à-dire qu'il use de sa transcendance, de sa conscience, pour en récupérer le sens. C'est-à-dire qu'il prétend ainsi que ses actes ne peuvent pas être interprétés comme autrui les interprète. Non, non, je ne suis pas ce que vous croyez. Non, oui, d'accord, c'est vrai, j'ai des comportements sexuels, homosexuels, mais ils traduisent une quête de soi, une recherche que les autres ne peuvent pas comprendre. Hein. Vous ne pouvez pas me juger parce que vous ne savez pas. Et il prétend, vous voyez, être au-dessus, au fond, de la manière dont les autres jugent ce qu'ils voient. Donc il affirme ainsi sa facticité sur le mode de la transcendance. Tes comportements viseraient autre chose. Et il cherche ainsi à désamorcer toute tentative d'autrui pour les juger. Hein, c'est comme ça qu'il va désamorcer le jugement des autres. Et en même temps, cet homosexuel se défend d'être homosexuel. C'est-à-dire qu'ici, il joue de sa transcendance pour nier son homosexualité. Alors, sur un point, il a raison. Il a raison de considérer que l'homosexualité, c'est une condition donnée que la conscience dépasse par la transcendance. On est d'accord. Mais il est de mauvaise foi lorsqu'il affirme qu'il transcende à ce point son homosexualité qu'au bout du compte, il est cet être qui cesse par là d'être homosexuel. Je transcende tellement mon homosexualité que je ne suis pas homosexuel, en fait. Hein. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il affirme sa transcendance sur le mode d'une facticité. Enfin, ça veut dire tout simplement pour signifier qu'il n'est pas homosexuel. Oui, d'accord, c'est vrai. Vous avez vu que j'avais des comportements homosexuels, mais fondamentalement, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et voyez, il se masque d'ailleurs à lui-même, se faisant sa propre homosexualité. Il se fait croire à lui-même qu'il n'est pas homosexuel par cette attitude défensive, hein, face au jugement des autres. C'est-à-dire qu'il fait comme s'il n'était pas du tout homosexuel. Et il fait abstraction, ainsi, de sa facticité. Ouais. Bon, donc, vous avez cet exemple, et voyez bien ici, par cet exemple, et je passe aux deux suivants ensuite, rapidement, parce qu'il faut les lire, s'il est possible, voyez, de fuir ainsi sa facticité, c'est ce que fait l'homosexuel, il fuit sa facticité, en prétendant n'être pas ce qu'il est, c'est-à-dire n'être pas homosexuel, eh bien, c'est en raison de la structure ambiguë, justement, de l'existence humaine. C'est-à-dire que, qui est à la fois facticité et transcendance. C'est-à-dire que la mauvaise foi consiste à jouer la transcendance contre la facticité, la facticité contre la transcendance. Et ici, notre homosexuel, eh bien, il fait abstraction de sa facticité, du fait que les autres le voient homosexuel, pour faire jouer sa transcendance, et au fond essayer de définir son être comme n'étant pas homosexuel. Mais il prétend ne pas être homosexuel comme la table n'est pas une chaise, vous voyez ? Comme s'il y avait un être homosexuel et comme s'il y avait une manière de ne pas être homosexuel qui, au fond, revient au même, au fond. Oui, allez-y.
Ouais. Excusez-moi, mais... quand même la question qui se pose, ouais, c'est qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel ?
Eh ben.
Parce qu'entre une table et une chaise, bon là...
Non, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Non, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Je suis en train de dire qu'on n'est pas homosexuel comme une chose est une chose. C'est-à-dire on a un comportement sexuel, homosexuel, on a une qualité, enfin on a une forme de sexualité qu'on appelle l'homosexualité, mais on n'est pas homosexuel en tant que conscience, en tant qu'être humain, comme s'il s'agissait là, si vous voulez, d'une nature. C'est une condition qu'on a, que l'homosexuel qui est ici de mauvaise foi nie pour échapper au regard d'autrui.
Une identité sociale et culturelle.
Voilà, mais c'est une identité, oui, absolument, mais on n'y est pas réductible. Et celui qui, parce qu'il est gêné d'être mal jugé parce qu'il est homosexuel, et par mauvaise foi, eh bien, fera celui qui n'est pas homosexuel pour échapper à ce regard. Vous voyez ? Mais qu'est-ce qui rend possible cette mauvaise foi ? Le fait, justement, que, déjà, par le fait que nous sommes conscience, nous ne sommes pas réductibles à notre condition, si vous voulez, il n'a pas choisi d'être homosexuel, il se révèle homosexuel, point. Mais c'est pas parce qu'il est homosexuel qu'il est complètement enfermé dans l'homosexualité, qu'il n'est que homosexuel, que c'est tout ce qui fait son être. Non, et puisque au fond, encore une fois, il y a la transcendance d'un être humain qui fait qu'il est cet être qui peut mettre en question justement sa condition et lui donner plusieurs sens et plusieurs manières d'être homosexuel. Bon, mais là, dans le cas présent, quand je dis... quand il dit « je ne suis pas homosexuel », eh bien, c'est comme s'il voulait donner une définition négative de lui comme celle qui consiste à dire qu'une table n'est pas une chaise. Tout simplement ça, c'est une comparaison, si vous voulez, pour vous donner une idée. Alors que, comme si l'homosexualité, c'était une chose, vous voyez, un être. Alors, nous n'avons pas d'être, oui.
Ouais. C'est que finalement ce seraient les autres qui nous définissent.
Oui. Oui.
On est bien plus qu'être plombier, être
conscient. Non, attendez. Non. Bien sûr qu'on est bien plus, parce qu'on est conscience qu'on met ça en question.
Donc on a le droit de se défendre.
Mais tout à fait. Mais quand on parle de transcendance, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on a une facticité, on est soumis au regard des autres. Vous voyez, les autres vous assignent un être, une identité. Bon, c'est pas toujours plaisant, ça peut être. Mais bien sûr qu'on a les moyens de.
Mais du coup, c'est pas la mauvaise foi pour moi de se défendre de ça.
Ah ben non.
Puisque je suis autre chose.
Non, alors attendez. Alors, c'est là que vous allez me permettre de bien vous répondre. Si vous voulez, c'est comme, on va prendre un autre exemple, le juif, dans la réflexion sur la question juive. Sartre dit, au fond, le juif, c'est avant tout celui que l'on définit comme juif, que l'antisémite définit comme juif. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi d'être défini ainsi, mais il est bien obligé de faire face à une situation où il est jugé comme juif, avec tous les stéréotypes qu'on peut imaginer. Alors, il y a deux manières de faire. Soit la mauvaise foi, c'est, par exemple, le juif qui intériorise la honte des juifs et qui va essayer de se dissimuler à lui-même qu'il est juif pour essayer de s'imposer comme autre chose que juif. Alors, Sartre donne l'exemple de cet homme qui emploie toute son énergie à montrer qu'il est généreux pour échapper au stéréotype du juif. Hein, qui est intéressé par l'argent, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il est complètement... Il est aliéné au sens où il est totalement dépendant de l'image que les antisémites ont de lui, et son mode de défense, qui est celui de la mauvaise foi, finalement, ne lui permet pas vraiment de s'en libérer. Parce qu'il se définit de façon négative, mais il en dépend toujours. Tandis que le juif authentique, le contraire de la mauvaise foi, c'est l'authenticité. Ben c'est le juif authentique, c'est celui qui assume le fait d'être juif dans une société où il y a plein d'antisémites. Ben il s'affronte à cette situation et au lieu de subir le sens que les autres, les antisémites lui donnent, lui, il va au contraire donner un sens au fait d'être juif. Il va s'assumer sa tradition, sa religion, etc. Vous voyez, par exemple, c'est-à-dire qu'il ne va pas adopter une stratégie défensive comme celle de la mauvaise foi, qui consiste ni plus ni moins finalement à en dépendre, hein, à dépendre d'autrui, et à prétendre se définir. C'est-à-dire que la mauvaise foi, elle consiste toujours à essayer de se définir comme un être, comme si on avait un être comme une chose, comme si l'homosexuel, être homosexuel ou ne pas être homosexuel, c'était au fond avoir un caractère. Quelque chose de figé, puisque justement, au contraire, en tant qu'être conscient, eh bien, nous sommes toujours des êtres qui sont capables, justement, de mettre en question la situation dans laquelle ils sont placés. Mais ce n'est pas en fuyant la situation, en faisant abstraction de la situation, qu'on s'en échappe. C'est ce que prétend, par contre, faire ici l'homme de mauvaise foi. L'homosexuel de mauvaise foi, il fait abstraction de sa condition, il ne veut pas l'assumer. Pas assumer, parce qu'il est très mal à l'aise, et c'est pour ça qu'il trouve cette fuite dans la mauvaise foi. Est-ce que c'est mieux ce que je vous ai dit? C'est plus clair, hein? Oui, non, mais je comprends très bien. Hein, il faut. Alors, il y a un deuxième exemple. On peut l'aborder, on ne pourra pas aborder le troisième. Celui de la jeune femme, si vous voulez bien. On va lire le texte, et puis on va voir ça. Le garçon de café, c'est très célèbre aussi, mais bon, tant pis, on ne peut pas faire tout. Alors, donc, je prends cet exemple. Bon, alors, il est plus léger hein, que le précédent, mais moins dur. Et, donc, c'est une jeune femme, je présente le texte, hein, qui a un premier rendez-vous avec un homme. Et, comme dit Sartre, elle sait fort bien les intentions que l'homme qui lui parle nourrit à son égard. Bon, elle ne se raconte pas d'histoire, elle sait très bien ce qu'attend l'homme. Qu'elle rencontre, elle veut le séduire. Elle veut le séduire, mais elle ne veut pas en même temps d'une expression un peu trop crue du désir de l'homme. Elle veut être désirée, mais pas trop non plus. Vous voyez, elle est une sorte de... Elle ne veut pas répondre. Elle veut être désirée tout en ne voulant pas être désirée. Elle est dans une attitude complètement contradictoire. Alors, moi, je vais lire mon texte dans mon livre, parce que moi, je vois bien que la photocopie n'est pas géniale. Alors, si vous voulez, vous me permettez, je vais regarder si j'arrive à retrouver. Bon, tant pis, hein, je ne vais pas chercher. On lit le texte. Alors, voici par exemple une femme qui s'est rendue à un premier rendez-vous. Elle sait fort bien les intentions de l'homme qui lui parle. Excusez-moi, je n'arrive pas à bien lire. Elle sait fort bien les intentions que l'homme qui lui parle nourrit à son égard. Elle sait aussi qu'il lui faudra prendre tôt ou tard une décision. Mais elle n'en veut pas sentir l'urgence. Elle s'attache seulement à ce qu'offre de respectueux et de discret l'attitude de son partenaire. Elle ne saisit pas cette conduite comme une tentative pour réaliser ce qu'on nomme les premières approches. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir les possibilités de développement temporel que présente cette conduite. Elle borne ce comportement à ce qu'il est, dans le présent. Elle ne veut pas lire dans les phrases qu'on lui adresse autre chose que leur sens explicite. Si on lui dit « je vous admire tant », elle désarme cette phrase de son arrière-fond sexuel. Elle attache au discours et à la conduite de son interlocuteur des significations immédiates qu'elle envisage comme des qualités objectives. L'homme qui lui parle lui semble sincère et respectueux comme la table est ronde, vous voyez, toujours les mêmes exemples, comme la table est ronde ou carrée, comme la tenture murale est bleue ou grise, et les qualités ainsi attachées à la personne qu'elle écoute se sont ainsi figées dans une permanence chosiste qui n'est autre que la projection dans l'écoulement temporel de leur strict présent. C'est qu'elle n'est pas au fait de ce qu'elle souhaite. Elle est profondément sensible au désir qu'elle inspire, mais le désir cru et nu l'humilierait et lui ferait horreur. Pourtant, elle ne trouverait aucun charme à un respect qui lui serait uniquement du respect. Il faut pour la satisfaire un sentiment qui s'adresse tout entier à sa personne, c'est-à-dire à sa liberté plénière, et qui soit reconnaissance de sa liberté. Mais il faut en même temps que ce sentiment soit tout entier désir, c'est-à-dire qu'il s'adresse à son corps en tant qu'objet. Cette fois donc, elle refuse de saisir le désir pour ce qu'il est, elle ne lui donne même pas de nom, et ne le reconnaît que dans la mesure où il se transcende vers l'admiration, l'estime, le respect, et où il s'absorbe tout entier dans les formes plus élevées qu'il produit, au point de n'y figurer plus que comme une sorte de chaleur et de densité. Mais voici qu'on lui prend la main. Cet acte de son interlocuteur risque de changer la situation en appelant une décision immédiate. Abandonner cette main, c'est consentir de soi-même au flirt, c'est s'engager. La retirer, c'est rompre cette harmonie trouble et instable qui fait le charme de l'heure. Il s'agit de reculer le plus loin possible l'instant de la décision. On sait ce qui se produit alors. La jeune femme abandonne sa main, mais ne s'aperçoit pas qu'elle l'abandonne. Elle ne s'en aperçoit pas parce qu'il se trouve par hasard qu'elle est à ce moment pur esprit. Elle entraîne son interlocuteur jusqu'aux régions les plus élevées de la spéculation sentimentale. Elle parle de la vie, de sa vie. Elle se montre sous son aspect essentiel, une personne, une conscience. Et pendant ce temps, le divorce du corps et de l'âme est accompli. La main repose inerte entre les mains chaudes de son partenaire, ni consentante, ni résistante. Une chose. Alors nous dirons que cette femme est de mauvaise foi. Mais nous... Alors, excusez, c'est vrai que là, ça devient difficile à lire. Mais nous voyons aussitôt qu'elle use de différents procédés pour se maintenir dans cette mauvaise foi. Elle a désarmé les conduites de son partenaire en les réduisant à n'être que ce qu'elles sont, c'est-à-dire à exister sur le mode de l'en-soi, c'est-à-dire d'une chose, mais elle se permet de jouir de son désir dans la mesure où elle le saisira comme n'étant pas ce qu'il est, c'est-à-dire où elle en reconnaîtra la transcendance. Enfin, tout en sentant profondément la présence de son corps propre, de son propre corps, au point d'être troublée peut-être, elle se réalise comme n'étant pas son propre corps et elle le contemple de son haut comme un objet passif auquel des événements peuvent arriver mais qui ne saurait ni les provoquer ni les éviter parce que tous ces possibles sont hors de lui. Alors évidemment, il y a tout plein de subtilités dans ce texte, je ne prétends pas l'expliquer entièrement. Je voudrais juste, et puis après on arrête, vous dire ce que j'en ai retenu. Et en quoi ça illustre bien tout ce que dit Sartre sur la mauvaise foi. Bon, donc elle sait ce qu'il en est de cet homme et de ce qu'il souhaite faire. Bon. Elle veut le séduire, mais en même temps, elle ne veut pas une expression trop brute, trop explicite du désir sexuel de cet homme. Ça, elle ne veut pas de ça. Alors, vous voyez, vous avez ici vraiment un exemple qui illustre parfaitement bien ce que je disais tout à l'heure. La mauvaise foi est une conduite défensive. Il s'agit de se défendre contre ce que peut avoir de menaçant la présence d'autrui, c'est-à-dire ici le désir de cet homme, qu'elle ne refuse pas, mais dont elle ne veut pas une expression brute. Et puis, il s'agit aussi, et ça c'est une chose qu'on voit moins, de se défendre contre l'angoisse. L'angoisse de sa propre liberté. C'est-à-dire qu'ici, cette jeune femme ne veut pas décider. Sartre y insiste beaucoup. Elle ne veut pas décider. Elle a peur de décider. Elle sait qu'il ne tient qu'à elle de décider. Mais elle recule indéfiniment le moment de la décision. Et puis elle fait tout pour se mettre dans une situation où elle n'est pas à décider. Parce que décider, c'est soit... C'est choisir, c'est soit accepter les avances, soit au contraire bah, mettre un terme à l'idylle. Hein. Elle veut un entre-deux, quoi, une situation de ce... Alors, ça, c'est une première chose. Et puis, alors, comment ça se caractérise la mauvaise foi? Moi, je vois deux choses. Vous avez d'abord la négation de la facticité. Hein, c'est-à-dire ici, elle nie, par exemple, la facticité du désir de l'homme. Elle ne veut pas le voir. Elle ne veut pas le voir, ce désir. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle transforme ce désir en respect, en admiration, en estime. Vous voyez, elle fait tout pour que ce désir s'adresse à son être, à sa personne, hein, mais pas à son corps. Et en même temps, elle veut bien que son corps soit désirable, hein, tout de même. Mais vous voyez, il y a cette dimension qui est intéressante. Et puis... Elle est aussi, elle se fait également toute transcendance, pur esprit. Elle s'absente de son corps, surtout quand il lui prend la main. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein, quand l'homme prend la main de la jeune femme, c'est comme si cette main ne lui appartenait plus. Comme si c'était une chose étrangère. Hein, vous voyez, c'est assez remarquable. Et c'est une stratégie qui permet aussi, d'une certaine façon... de désamorcer l'initiative de cet homme. Enfin, il doit bien sentir qu'elle ne répond pas non plus hein, à ses avances. Hein, ça stoppe très vite. Ça démarche, ça neutralise le désir. Donc, et moi, je retiens de ce texte, la fin, elle se réalise comme n'étant pas son propre corps. C'est tout à fait ça. Hein, c'est un jeu entre la transcendance et la facticité. J'arrête là, parce que là, ce serait trop long. Alors, là, en cours de route, vous avez pu vous exprimer. Alors, allez-y, hein, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a des malentendus qu'il faut éviter, oui. Oui.
Ce fait, oui. Ça parle le regard de ce grand-père et des choses comme ça, mais effectivement, comment il va s'en défaire pour lui exister, comment il va pouvoir se construire. Parce que quand on lit des mots, on a l'impression d'avoir un jeune garçon très conscient de ce qu'il est pour cet autre, quelle place il occupe.
Mais en même temps, c'est contre la psychanalyse qui écrit les mots. Non, mais c'est une manière de dire que la psychanalyse, finalement, elle tape à côté. Hein, ça, c'est... Ah, bien, oui, il y a une sorte de conflit. Hein, dans l'œuvre de Sartre, il flirte avec la psychanalyse, si on peut dire. Et en même temps, il a...
Une mauvaise foi ?
Non. C'est la psychanalyse qui est de mauvaise foi. Mais en même temps, il y a un jeu, effectivement, il y a un certain jeu. Et je pense que les mots sont écrits du point de vue d'autrui aussi. C'est écrit du point de vue d'autrui. Bon, alors là, voilà un texte. Bref, il faudrait peut-être effectivement y consacrer une petite séance, mais bon, il va falloir. Si vous voulez, ce que nous avons dit ce soir anticipe aussi beaucoup la troisième partie. De l'être ainéant, qui est une partie célèbre. Hein, il y a plein d'exemples, plein de choses. Et c'est dans ce cadre-là que la lecture des mots, et puis d'autres textes, les huis clos par exemple, prend tout son sens. Hein, c'est vrai. Alors, donc, vous avez... Oui.
Je reviens sur la liberté angoissante.
Oui.
Est-ce que Sartre considère quand même qu'il y a des garde-fous qui nous permettent de ne pas avoir...
Comment ?
Excusez-moi, mais c'est Philippe qui est parti tout à l'heure. On ne voudrait pas laisser trop...
Non, allez-y, je vous en prie.
Il est sorti depuis une heure, donc...
Je vous en prie, allez-y. Alors...
Oui, sur la liberté angoissante, est-ce que Sartre considère quand même qu'il y a des garde-fous qui permettent de ne pas avoir à décider, comme la raison, par exemple ?
Non.
Donc la raison n'est pas un garde-fou ?
Non, il n'y aura aucun garde-fou. C'est-à-dire que la liberté, elle est sans attache. Je choisis, et c'est un choix radicalement indéterminé. Je peux choisir contre la raison. La raison peut me conseiller d'eux, mais je peux choisir contre. Rien ne m'interdit, encore une fois, c'est toujours cet exemple. Je trouve qu'il est très bien, parce qu'il est assez radical. L'exemple du précipice, là. Hein, bon, évidemment... J'ai peur de tomber sans danger. Et je prends toutes les précautions. Et ma raison, d'ailleurs, va m'inciter à calculer les moyens d'éviter la catastrophe. Bon, c'est vrai. Ce n'est pas un garde-fou. Parce que, et encore une fois, il faut toujours revenir à cette distinction entre la peur et l'angoisse. J'ai peur de quelque chose. J'ai peur d'un objet. J'ai peur d'un animal. J'ai peur de tomber. J'ai peur du virus, etc. Je suis menacé par quelque chose. Mais l'angoisse est toujours face à moi. Je suis angoissé. Et qu'est-ce qui m'angoisse en moi-même ? C'est ma liberté. C'est cette radicale liberté qui peut, à tout moment, rompre avec ce que je croyais pouvoir attendre. Donc là, c'est radical. Donc il n'y a pas de raison, non ? Il n'y a pas de raison.
Une autre question, est-ce que la croyance, quelqu'un...
Ça change rien pour Sartre, je crois. Je crois que ça change rien. Même si Dieu existe, ça change rien. Il faudrait mieux répondre, mais ce n'est pas un garde-fou, la foi. Voilà, pas un garde-fou. En même temps, c'est vrai que pour le croyant, il y a un sens qui vient d'en haut, transcendant. Là, la position de Sartre est radicalement athée. C'est-à-dire qu'il n'y a de sens que par l'homme. Bon, c'est vrai que là-dessus, dans la préface, la fameuse préface, c'est difficile, mais à la fin, il le montre bien. Hein, c'est que la question de l'être précède toutes les considérations sur l'origine de l'être. Je découvre l'être, le réel, comme un fait brut. De manière contingente. Je fais l'expérience de la contingence au départ. C'est la seule expérience absolue que je fasse. Et au fond, la question mais d'où vient le monde ? Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé ? Etc. C'est une question qui vient après. C'est pas la question première. Et alors, si les hommes se posent la question de Dieu, c'est parce que d'abord, ils font l'épreuve de la contingence. Donc voilà, hein, si vous voulez, pour lui, ce Dieu, est-ce qu'il va être un secours ? Non ?
Non, je parlais simplement des échanges qu'il peut y avoir entre un croyant et un non-croyant. Quand l'un dit Dieu existe, l'autre dit trouve-moi ou donne-moi l'exemple qu'il existe. Oui. Parce que sinon, c'est une mauvaise foi, peut-être.
Ah, il peut y avoir une façon d'utiliser la religion de mauvaise foi, ça oui. Mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est... Enfin, c'est vrai qu'il faudrait creuser le problème, hein, parce que là, c'est vrai que pour répondre comme ça à brûle pour point, c'est pas facile. Mais oui, il peut... Ben alors là, c'est vrai de tout le monde, hein. C'est pas seulement le croyant, hein. C'est... Voilà, par exemple, on va répondre comme ça, sur le plan éthique, sur le plan moral. Celui qui... considère que les valeurs sont déjà données. puisque Dieu les aurait déjà donnés. Alors là, effectivement, il est dans la mauvaise foi. Ce que montre Sartre, c'est que les valeurs n'ont de sens que par ma liberté. C'est parce que je les fais miennes qu'elles ont du poids, qu'elles ont une valeur. Mais les valeurs, c'est pas des données inscrites en haut, et puis j'aurais plus qu'à suivre, quoi. Non. Alors si on considère effectivement la mort, ça c'est ce qu'il appelle l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux par lequel on se dissimule, c'est une forme de mauvaise foi, qu'on se dissimule que c'est nous qui choisissons. Nous sommes condamnés à choisir. Et que nous sommes condamnés constamment à choisir. C'est-à-dire que nous ne pouvons jamais nous reposer sur notre passé pour dire « moi je suis un héros, hein, j'ai montré que j'étais un héros, donc demain c'est sûr je serai encore un héros ». Mais non, c'est pas vrai. C'est à tout moment que ça se décide. Il n'y a rien qui puisse effectivement me donner secours. Rien. Je suis condamné à choisir à tout moment. La morale de l'ancien combattant, enfin celui qui estime avoir suffisamment prouvé dans sa vie pour être à l'abri de toute erreur, ben non. Non, il n'y a pas de...
Mais on ne peut pas à la fois être freudien et sartrien.
Non.
Il faut choisir.
Alors, si vous faites le choix du freudien, vous êtes de mauvaise foi parce que...
parce
que... Alors, rassurez-vous, c'est une condition commune. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de L'être et le néant, il y a tout un développement sur la psychanalyse existentielle. Et Sartre a consacré une bonne partie de son œuvre à réfléchir sur Flaubert, sur Baudelaire, sur Genet. Il a écrit un livre sur Genet. Et c'est-à-dire que c'était le projet d'une psychanalyse existentielle. Alors, ce n'est pas une psychanalyse thérapeutique. Hein. Il n'a pas une vocation de thérapeute. Mais il fait à comprendre le style d'une vie à partir de ses actes. C'est-à-dire chaque acte témoigne d'un certain choix d'existence. Alors, ça, c'est très intéressant. Et son dernier livre qu'il n'a pas pu achever, c'était son livre sur Flaubert. C'est sa dernière grande œuvre. C'est monumental. C'est monumental.
Dans les années 60-70,
ouais.
La mode était quand même assez largement au freudisme.
Et au structuralisme.
Sartre était présent, il n'a pas été tellement lu.
Aujourd'hui,
Sartre est tellement lu, j'en suis pas.
Est-ce qu'il était à la mode vous savez, les modes, alors franchement, moi... ce qui est vrai, c'est que dans les années 60-70, il y avait un débat intellectuel plus vif et plus présent, qui complètement mis sous la touche. Hein. Vous avez des vedettes, si vous voulez, mais bon, c'est autre chose. Hein. Des gens médiatiques. Bon, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y ait une intense activité critique. En tout cas, elle ne paraît pas médiatiquement. Elle existe. Alors, à l'époque, Sartre, c'était... Oui, pendant il y a eu une mode Sartre, mais pour des raisons qui n'étaient pas toujours claires. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il avait un grand succès. Puis il s'était montré assez courageux, quoi qu'on dise. Hein. Il a pris des risques. Bon. Il a fait des choix qui pouvaient paraître parfois très critiquables, mais bon, voilà. Non, les années 60-70, c'est le truc, c'est tout ce qui est structuraliste, c'est-à-dire la phénoménologie, toutes les philosophies de la conscience sont considérées comme illusoires. Et donc, il y a une sorte de retour en force d'un positivisme, hein, une conception, je dirais presque scientiste,
j'ai pas l'impression que Sartre ait jamais été tellement entendu, même de nos jours, par exemple. Tout ça me semble.
Bon, il y a toujours le fameux.
Loin de ce qu'on entend habituellement.
Ou alors, on parle de lui à travers ses prises de position politiques. Bon. Oui, ou alors, à travers le personnage. Alors, est-ce que vous êtes Camus ou est-ce que vous êtes Sartre? C'est de ce genre-là, quoi. Bon, c'est stupide. Et alors, bon, c'est vrai que. Il ne s'est pas ménagé des amis, que des amis. Hein. Il n'a pas été toujours très... Bon, c'est, il y aurait beaucoup... non, mais c'est une vie riche, très complexe. Ou très imprudent, d'ailleurs, hein, souvent. Mais sa pensée profonde, elle est forte, tout de même. Hein. Ce n'est pas un petit penseur. Hein. Je crois que, vraiment, c'est un grand penseur. Il y a un autre comme lui, qu'on connaît moins encore, c'est Merleau-Ponty, qui est aussi un grand auteur. Et qui s'intéressait plus à la psychanalyse que Sartre, d'ailleurs. Tout ce mouvement de la phénoménologie a été un grand mouvement philosophique des années du XXe siècle. Sartre en est un, est une des figures assez particulières. Mais vous avez beaucoup de grands philosophes, mais qui ne sont pas connus. Si je vous cite le nom d'Eugen Fink, un Allemand, personne ne connaît. Ou si, on connaît un peu Patochka parce qu'il a été assassiné, il a été tué en République tchèque en 77, enfin, au moment de la... Enfin, il a résisté contre les Russes, les Soviétiques, à l'époque. Et il représentait le mouvement des 77. Enfin, voilà, il a donné. Enfin, il a été torturé, il est mort. Bon, alors lui, il est célèbre pour cette raison-là, mais c'était aussi un grand philosophe. Il y a plein de gens comme ça. Hein. Mais bon, c'est pas médiatique. Si vous voulez. Alors, bon, oui, Sartre, si, non. Alors, Sartre, il y a toujours des gens qui s'intéressent à lui. Ça n'a jamais disparu. Et puis, bon, son plan littéraire aussi, il est vraiment apprécié. Moi, je trouve que son théâtre est assez vivant. Hein. C'est vrai, franchement, pas du tout. Il n'est pas du tout didactique. On s'imagine, ah, c'est un philosophe, donc il va nous pondre un théâtre très démonstratif. Pas du tout. Pas du tout. Je trouve que son théâtre est assez. C'est intéressant, peut-être pas le meilleur des théâtres, mais c'est même pas... Ah, il avait une fécondité, tout de même, c'est incroyable. Hein.
Non, c'est le texte, non plus, n'est pas très facile à faire.
Bah oui, ouais. On voit bien, hein, vous avez souffert. Hein.
Je crois qu'il a souffert de ça aussi.
Bah, il n'a pas cherché non plus dans l'être le néant. Hein. Alors, ça dépend, il y a des textes... Alors, c'est très, très, très variable. Vous avez des textes, je trouve, assez... Ouais, assez... Ou celui que je vous ai photocopié, là, celui que je vous ai envoyé, qui est écrit en 44. Il est magnifique. Et vous avez toute sa philosophie dedans. Magnifique. Ça, enfin... Alors, il y a un peu de jargon, au sens, on sent bien qu'il y a une certaine technicité philosophique qui est dedans, mais en même temps, c'est tout de même, il sait écrire, quoi, tout de même. Il y a des textes littéraires superbes de Sartre, tout de même, je trouve. Enfin, je sais pas, moi, je...
Oui, ça, je reconnais, mais je veux dire, pour... Ouais. Il a tiré pas les fous, c'est ça que je veux dire.
C'était une vedette, tout de même, à un moment.
Oui.
Bah, ça a dû, je pense, dans les années... Ouais. Ah non. Là, c'est fini. Après 60, on passe à autre chose. On passe à un autre monde. Moi, je me souviens, quand j'étais lycéen, un prof de philo... c'était à l'époque... Althusser, Lacan... c'était les nouveaux dieux, quoi. Enfin, bon... Et donc, bonsoir. Bon, c'est intéressant. Mais... oui, c'était un peu comme ça. Mais je crois qu'on est revenu un peu de ces modes-là, quoi.
Mais ça me paraît un écueil assez redoutable dans une psychanalyse mal conduite que de tomber dans la mauvaise foi, justement. C'est-à-dire, je ne suis que ça, ce qu'il appelle la facticité, c'est pas de ma faute, j'ai été surdéterminé, et puis il n'y a plus rien à faire.
Ouais, je dirais que la psychanalyse...
Ouais,
mais attendez, le problème c'est que la psychanalyse, elle a tout un appareil théorique, je parle de Freud, hein, qui est explicatif, interprétatif, avec des concepts qui est... Sartre lui reproche d'être chosiste, c'est-à-dire de parler du ça comme d'une sorte de nature... du psychisme comme une réalité, etc. Il lui reproche ça. Mais dans sa pratique, la psychanalyse, elle met en face l'individu de choix angoissant. Il y a une pratique de, qui... Et alors c'est là peut-être qu'on peut se poser des questions. Est-ce que la psychanalyse peut rendre parfaitement bien compte de sa pratique? Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne suis pas assez... Mais là, il y a... voilà, c'est pas du tout réconfortant. En principe. En principe. Donc je pense justement, elle est normalement faite pour que l'individu se défasse de ses aliénations, de cette manière, de cette envie d'être, de le débarrasser de sa quête d'identité. C'est la quête d'identité, c'est ça qui est névrotique. Je veux être quelque chose, je veux être quelqu'un. Je suis comme ça. C'est ce que nous.
L'accueil, c'est peut-être de se laisser enfermer dans l'interprétation du psychanalyse.
Ah non, parce que dans la psychanalyse, c'est pas enfin, ça, c'est l'idée qu'on s'en faisait. C'est pas l'analyste qui interprète. C'est pas l'analyste qui interprète. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Mais il n'intervient pas intellectuellement. Ça, c'est l'interprétation. Elle se fait par un travail du sujet lui-même, enfin, l'analyse en lui-même. Mais bon, pas de.
Dans le
meilleur des cas. Il n'y a pas de psychanalyse qui vient dire voilà, vous souffrez de ci, vous souffrez de ça. Non. Et c'est même complètement contraire à la pratique. C'est, non, l'individu, est à la limite, il est. Là, je dirais, il y a quelque chose de sartrien dans ce sens-là. Il est confronté à l'angoisse.
Oui.
Il n'y a pas de secours. Et il cherche évidemment. Alors là, je lis ça, je l'interprète d'un point de vue sartrien, mais c'est oui, il y a ça, quelque part. C'est que l'individu est confronté à une angoisse. Alors, évidemment, l'explication ne sera pas la même pour Freud, mais une angoisse radicale, il n'a pas de support, il ne peut plus se... Jusqu'à présent, il pouvait avoir le confort de ses symptômes, il en souffrait. Mais à partir du moment où les symptômes commencent à lâcher prise, il est face à lui-même dans une sorte de radicale angoisse qui le déboussole totalement. Bah, je dis ça comme ça, de façon un petit peu... Oui, non.
Ça me fait penser à la phrase de « Je sais bien, mais quand même ». Voilà, par exemple, par rapport à la mort. On sait bien qu'on est tous mortels, mais quand même.
Mais quand même quoi ?
Évidemment.
Alors justement, la position de Sartre sur la mort est très intéressante. Il y a aussi, c'est un lecteur d'Heidegger, mais qui rompt avec Heidegger. Enfin bon, là, il faudrait faire une explication de la différence entre ces deux grands penseurs. Pour Sartre, Sartre a presque une conception épicurienne. La mort, finalement, elle nous arrive, elle nous est étrangère, et même pas à y penser. Elle vient toujours comme ça, hein, et même pas à l'intégrer dans notre existence pour lui donner sens. Il est absolument, absolument étranger à ce type de réflexion. Hein, la mort nous est étrangère.
Oui, c'est bien, mais quand même.
Ah ben oui, évidemment, personne n'a envie de mourir. Mais qu'est-ce qu'on en... Mais de quoi la mort, c'est à la limite la mort des autres, oui, mais ma mort...
Oui, il y a un roi de Suède qui avait rédigé son testament en commençant par « Dans l'hypothèse où je devrais mourir
». Mais c'est vrai que c'est une hypothèse. Quand elle se réalise... Non mais oui, c'est une hypothèse. Parce qu'on ne la réalise jamais. Parce que quand on est mort, on ne s'aperçoit pas. Non, vous êtes forcément dans l'hypothèse, oui. Bien sûr, on n'y croit pas, hein. On n'y croit pas qu'on va mourir. On n'y croit pas, on ne peut pas y croire.
Il y a le roi se meurt, la pièce de Ionesco, c'est
ouais.
Intéressant.
Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je n'ai pas fini. N'hésitez pas à poser des questions par écrit. Je ne sais pas, un point, je n'ai pas compris. Oui, par exemple, vous aviez raison de réagir tout à l'heure, parce que je pense qu'il y avait un malentendu. On était parti sur un malentendu, hein, en fait. Parce que ce qui vous a choqué, c'est que On parle de table et de chaise. Mais non, c'est une façon, enfin, Sartre utilise cette image pour dire qu'au fond, et quand nous nous cherchons à nous définir, nous voulons avoir un être comme une chose à un être. Or, nous n'avons pas d'être. Ça, c'est difficile à vivre. Et aussi, c'est ce qui fait la chance de notre existence. Nous n'avons d'être que quand nous sommes morts. Et à ce moment-là, et Sartre reprend la formule de Malraux, la vie transforme... Attendez. Non, la mort transforme la vie en destin. La mort transforme la vie en destin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est mort, on n'est que ce que l'on est pour les autres. Quand on est vivant, on existe. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se définir. Voilà. C'est, au fond, l'être est du côté de la mort. Et le néant est du côté de la vie, si on peut dire les choses comme ça, pour Sartre. C'est vrai, c'est ça. C'est le néant qui fait que nous sommes perpétuellement en question de notre être. Nous avons un avenir et nous sommes le jour où nous sommes morts. Mais être, c'est avoir été. C'est tout. Rien d'autre. Alors on peut arrêter là.